Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
C'est maintenant l'heure de parler d'essais routiers et on a essayé, Germain, deux véhicules qui ne pourraient pas être plus différents, je crois. J'ai fait l'essai d'une Porsche 911 Carrera 4 GTS, mais avant ça, je veux t'entendre sur le Toyota Tundra.
Oui, effectivement, il y a deux semaines, Antoine et moi mettions tous les deux à l'essai un Jeep moteur V8, mais cette semaine, c'est un petit peu plus différent au programme. Oui, j'ai mis à l'essai le Toyota Tundra de nouvelle génération, un véhicule qui est été complètement renouvelé pour 2022 et franchement, ça fait énormément de bien. J'avais eu la chance de conduire l'année dernière le modèle d'ancienne génération dont la conception remontait à quoi? Plus de 10 ans, Fred. Ouais. C'était complètement dépassé et après quelques kilomètres seulement au volant, je te confirme que j'avais deux constats qui étaient très, très, très clair. Ce véhicule-là est immensément plus confortable que par le passé. Donc, beaucoup.
Ça brassait un Tundra. J'ai pas pu conduire le nouveau encore, mais
ça brassait
un Tundra d'ancienne génération.
Sans bon sens, même si on ne prenait pas une version TRD qui était plus rugueuse ou robuste. Ouais. Donc, ça brassait énormément et c'était aussi très bruyant. Si on était deux à bord du véhicule, on avait du mal à s'entendre. Donc, en termes d'insonorisation, c'était déficient, mais on a vraiment porté une attention particulière à ces deux lacunes-là et j'ai pas le choix de lever mon chapeau. On a fait de l'excellent travail. Le nouveau Tundra est très, très, très confortable et surtout très silencieux et ça fait énormément de bien. On n'a pas l'impression d'être à bord d'une camionnette qui soit inférieure aux Américains, alors que c'était l'impression qu'on ressentait quand on conduisait l'ancien modèle. On jouait la carte de la fiabilité.
Le gros moteur V8.
On savait qu'on allait pouvoir parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec ce véhicule-là, mais qu'on allait en avoir pour son rhume. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est concurrentiel, qu'on est compétitif, qu'on a un véritable camion pour les besoins nord-américains, des nord-américains.
Est-ce que il y a une version hybride qui a été lancée? C'est pas celle que tu as conduite?
Non, malheureusement, c'est pas la version que j'ai conduite. Oui, il y a une version hybride qui est sur le point d'arriver.
Parenthèse, on était censé assister au lancement de cette version-là qui a été annulée.
On est
en toi, oui, c'est ça.
Et c'était supposé avoir lieu à Calgary et j'étais bien enthousiaste à l'idée de pouvoir comparer les deux véhicules, justement. Et malheureusement, l'événement a été annulé.
À cause de la COVID, là.
Non,
c'est la disponibilité du véhicule, carrément.
C'était ma première impression. Peut-être l'ombre d'une 74e vague de COVID qui serait à nos portes. Mais non, en fait, c'est une question de disponibilité des véhicules. Donc, même de mobiliser quelques unités pour les médias.
Incroyable.
Vraiment, c'est très grave.
Donc, le modèle que tu as mis à l'essai, 6 cylindres turbo.
6 cylindres, turbo compressé, 3,5 litres. J'avais peut-être des attentes un peu élevées. C'est certain que le rendement de cette mécanique-là est intéressant. Ça travaille bien, c'est performant. J'ai eu la chance de remorquer aussi avec le véhicule. Pas une charge énorme, mais une remorque fermée qui pesait en tout peut-être 4000 livres. Et je te confirme que j'avais l'impression d'être seul à bord du camion et de n'avoir rien derrière moi. Donc, le véhicule travaillait très, très, très bien. Et au bout des presque 1000 km parcourus avec le véhicule, la consommation était de 17,5 litres au 100
km. En remorquant.
Avec un remorquage partiel, peut-être sur la moitié du trajet, pas tout à fait. Et comme je le dis, avec une charge vraiment pas élevé, là. Ça tire 10 000 livres.
L'aérodynamisme.
Je veux bien. Mais 17,5 litres au 100, c'est énorme. Pour moi, il n'y a pas de gain d'économie par rapport au moteur V8. C'est un peu décevant de ce côté-là. J'ai donc plus hâte que jamais de conduire la version hybride qui, elle, devrait venir un peu régler ce problème-là. Donc, c'est pour moi la petite déception, il n'y a pas d'économie de carburant en passant de 8 à 6 cylindres.
Ouais, côté fiabilité, on dit souvent qu'il faut attendre un peu avant de recommander des nouveaux modèles, des modèles de nouvelle génération. Surtout, là, on arrive avec une nouvelle motorisation sous le capot du Tundra. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise de recommander ce produit-là dès cette année?
Ah, c'est la question à 70 000 $ Fred, effectivement. Connaissant la réputation de fiabilité de Toyota par le passé, j'ai envie de te dire que oui, mais en même temps, de l'autre côté, j'ai pas le choix de me dire que oui, il s'agit d'une nouvelle mécanique pour le constructeur et d'une mécanique turbo-compressée. Et on était assez timide dans le domaine de la turbo-compression chez Toyota, justement parce qu'on voulait avoir des motorisations à toute épreuve. Ouais. Donc, j'ai cette l'ombre d'un doute.
Petite réserve quand même.
Petite réserve, donc, mais...
Même Toyota n'est pas à l'abri de problèmes de fiabilité. On le voit actuellement avec les modèles hybrides, notamment le RAV4 Prime et le fameux câble corrodé. Donc,
on le savait, le Tundra d'ancienne génération, c'était increvable. On allait être bon pour bien des années et bien des centaines de milliers de kilomètres. Mais je ne peux pas garantir en ce moment la même chose avec le Tundra de nouvelle génération. Petite note, je conduisais une version milieu de gamme, donc une version Limited L, donc avec la grande cabine et la grande caisse. Oui, c'était un peu comme un autobus. Et j'ai été un petit peu déçu par le tableau de bord qui ressemble beaucoup au modèle d'ancienne génération. Je m'attendais à peut-être là un cockpit numérique, quelque chose comme ça. On a mis beaucoup d'énergie sur le système d'infodivertissement avec une tablette qui doit faire 72 pouces de large, c'est gros, mais...
Puis la présentation graphique, souvent, Toyota sont comme 50
ans. Ouais, mais là, on n'est pas là. On est en 2020. Là.
Ah,
j'ai
2020.
Pas dit 2022, mais là, on est en 2020. Je mentionnais la semaine passée que le Venza, ça n'avait pas de bon sens. C'était gênant comment l'infographie était dépassée. Là, on a fait un bon pas en avant, mais pour le tableau de bord, pour avoir quelque chose de plus moderne, il faut aller dans des versions Platinum ou Capstone. Petite déception de ce côté-là, mais en même temps, je comprends qu'on doit essayer d'en donner plus à ceux qui payent un peu plus. Assez parlé du Tundra, Fred, je te laisse glisser quelques mots sur ton essai d'une Porsche 911 4 GTS.
Exact, donc version GTS équipée d'un moteur à 6 cylindres à plat turbo-compressé, 473 chevaux. Je l'ai dit par le passé, je le répète, pour moi, la variante GTS chez Porsche, pas juste avec la 911, les autres modèles aussi, c'est le parfait compromis. On n'est pas dans l'excès des modèles turbo, turbo S, mais on a davantage de puissance qu'avec les modèles d'entrée de gamme, si je peux dire ça comme ça.
Ouais, des très, très gros, des guillemets majuscules.
Oui, parce qu'une Carrera 4 GTS cabriolet, comme celle que je conduisais, ça coûte au bon mot 173 700 $. Ajoutez un peu d'options et vous dépasser facilement la barre psychologique des 200 000 $. Donc, c'est pas pour n'importe qui. Il faut dire qu'une Carrera de base, là, deux roues motrices, tout ce qu'il y a de plus...
sans option.
Sans option,
rien. Qu'il y en a des options.
C'est rendu 115 000 $ quand même en 2022, une Porsche Carrera, une Porsche 911. Fait que c'est vraiment... C'est un véhicule qui pue à la portée de tous. Il l'a jamais été, mais ça a déjà été, je pense, un rêve peut-être un peu plus atteignable qu'il l'est maintenant. Ceci dit, la Porsche 911, écoute, quel bolide, la version GTS, une sonorité exceptionnelle.
Mais en même temps, quand... on regarde les concurrents, on peut penser à la Corvette qui avait son prix d'entrée qui frappait l'imaginaire à 70 000 et des poussières, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas une Corvette en bas de 140 000 $.
Non, puis les gens qui achètent ça vont pas acheter la version de base non plus. Quand tu as l'argent pour te payer une voiture à 115 000 $, mais souvent tu as l'argent pour te payer une voiture à 150 000 $.
Oui, oui. Et ça ressemble à ça souvent pour une 911, une fois qu'on aura rajouté quelques options.
Petite anecdote, je suis allé chercher ce véhicule-là pour commencer ma période d'essai, c'était le lendemain du lundi de Pâques, donc mardi 19 avril, je sais pas si tu te souviens, mais il a neigé, on avait un très très beau lundi de Pâques, super ensoleillé. Je me lève mardi matin, j'avais cherché une Porsche 911 décapotable, ma vie est belle, j'ouvre la fenêtre, il y avait comme un 4-5 cm de neige.
Bienvenue le 25 décembre.
Quelle belle période pour essayer une voiture décapotable.
Le restant de la semaine a été meilleur.
C'était pas si mal, faisait pas chaud, mais j'ai quand même essayé de profiter au maximum la version convertible. Puis d'ailleurs, c'était la semaine du Salon du véhicule électrique de Montréal où je me suis rendu à quelques occasions au Stade olympique. Fait que j'arrivais là avec ma Porsche 911, moi, à gaz, espèce de traître à l'environnement.
Espèce de dinosaure.
Mais quelle belle semaine. Puis vraiment, on l'a souvent dit, mais la Porsche 911, c'est un... C'est vraiment...
Est-ce que c'est la sportive parfaite?
À mon avis, oui. À mon avis,
j'ai,
oui.
J'ai la question, moi, à 173 700 $. Oui. Manuel ou PDK?
Celle que j'avais à l'essai était PDK, puis ça va bien en tabarouette. Je pense que je choisirais une manuelle.
Oui.
Mais la
juste
PDK.
Parce qu'on sait que ça achève.
Oui, puis bon, il y a le plaisir de conduire. Puis moi, tu sais, souvent les gens disent ah, pris dans le trafic, une manuelle, c'est fatigant. Moi, ça m'a jamais trop dérangé, ça. La PDK est une excellente option. Probablement un véhicule qui va être plus facile à revendre si vous voulez un jour revendre ce véhicule-là. Quoique dans le cas des sportives comme la Porsche, il va toujours avoir une demande pour la manuelle aussi. Mais je pense que je te dirais manuelle, Germain. Mais la version que j'avais, c'était une PDK. Puis vraiment une transmission qui semble lire dans tes pensées. C'est incroyable. On dirait que les changements de vitesse se font exactement au moment où tu veux qu'ils se fassent. Il y a vraiment quelque chose de sublime avec ce véhicule-là.
On salue les propriétaires de véhicules équipés d'une boîte CVT.
C'est deux planètes. Germain, au retour, un petit peu plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec notre collègue Julien Amado au sujet d'un projet de balado sur Gilles Villeneuve qu'on lance au Guide de l'Auto. Donc, on diffuse cette entrevue-là après la pause.